Olivia Gesbert, c'est à vous.
Merci beaucoup Florian.
On se fait un film
en ce mercredi et puis on va faire aussi un état des lieux des relations internationales en deuxième partie de la Grande Table. France Culture, il est midi. On commence tout de suite par les titres avec vous Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Hommages internationaux qui se multiplient après l'annonce de la mort de l'ancien président israélien Shimon Peres à l'âge de 93 ans pour le président américain Obama. C'était un de ces personnages qui change le cours de l'histoire humaine, un génie au grand cœur, fervent avocat de la paix pour Bill Clinton. Vladimir Poutine salue son courage, son sens de la patrie. Et puis à Jérusalem, le premier ministre Netanyahou salue un visionnaire et aussi un champion de la sécurité de son pays. Shimon Peres appartient désormais à l'histoire, écrit de son côté François Hollande qui annonce qu'il se rendra vendredi aux obsèques à Jérusalem. Nicolas Sarkozy annonce également qu'il fera le déplacement. On sera en ligne tout à l'heure avec Étienne Monin. L'armée syrienne, appuyée par la Russie, continue d'avancer dans Alep. Elle a pris le contrôle d'un des quartiers rebelles où la situation humanitaire est catastrophique. Maintenant, il y a les deux plus grands hôpitaux de la partie est de la ville qui ont été touchés ce matin par des frappes. Analyse de Nabila Hamel. Le ministre de l'économie présentait ce matin le projet de loi de finances 2017. Michel Sapin défend le sérieux, la cohérence, dit-il, de son projet de budget. Il rejette les critiques formulées par le Haut Conseil des Finances publiques hier, lequel avait jugé improbable la réduction du déficit prévu par le gouvernement. Commentaire, explication de Jean-Marc Chardon, l'invité de l'abécédaire de la campagne. Cette semaine, Jean-François Copé avec la lettre D comme droite. Voilà pour les titres, c'est à vous. Olivia Gesbert pour La Grande Table.
Rendez-vous à midi et demi pour le journal. Merci Antoine Mercier. Bonjour à tous. Analysé en deuxième partie de la Grande Table, assiste-t-on au naufrage du multilatéralisme? Syrie, migrants, climat, état des lieux des relations internationales avec un grand spécialiste de ces questions, le politologue Philippe Moreau de Farge à partir de 12h55. C'est pas l'homme qui prend la mer, mais c'est surtout parfois la mer qui prend l'homme. Prendre conscience avec une figure du documentaire italien, figure du renouveau, parole du réel. De passage à Paris, Gianfranco Rosi est notre invité pour Fuoco a Mare, un film fort, un film choc sur les migrants et le quotidien de la petite île de Lampedusa. Sans voix off, no comment, des images, des situations qui se suffisent à elles-mêmes. Le film est en salle aujourd'hui, Ours d'Or à Berlin, est choisi pour représenter l'Italie en compétition pour l'Oscar du meilleur film étranger en février prochain. La Grande Table se tweet, se like et se télécharge. Et c'est bien sûr sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Dai, rema sempre in avanti, eh? Così. Se no, un addivente marinaro, dai, voga. Indusa tutti marinara, sì.
Buona domenica ed eccoci anche oggi ritrovati al quotidiano spazio dedicato all'informazione. Sul barcone che è naufragato vi erano imbarcate 250 persone e fino ad ora sono stati recuperati 34 corpi, mentre i soccorritori hanno strappato dal mare 206 naufraghi.
Après Botman en Inde, le désert californien avec Bill O'Sullivan et le périphérique romain de Sacrogra, Gianfranco Rosi a installé sa caméra sur l'île italienne de Lampedusa. Parfois anonyme et interchangeable, façon non-lieu de Marc Auger, parfois très frontalier et identifié. Aussi petit soit-il, en tout cas les lieux sont de taille pour ce réalisateur anthropologue. Dans Fuoco a Mare, il met en parallèle la vie d'une famille de pêcheurs et celle de centaines de migrants qui tentent de rejoindre le continent en s'amarrant à ce petit port italien de 20 mètres carrés, situé à 150 km de la côte tunisienne et 300 environ de la Libye, porte d'entrée, l'île de Lampedusa, vers l'Europe. Gianfranco Rosi, bonjour.
Bonjour.
Et Olivier Favier, votre voix française, bonjour à vous.
Bonjour. La voix en français.
Votre voix française, ouais. Elle est belle, française. Elle vous plaît cette voix
hein elle... Ah, c'est parfait maintenant. Je parle en français. Non, c'est scherzant. Et la voix est parfaite.
C'est la voix parfaite. Que tu connais mais ça fait bien des années qu'on se connaît avec Olivier.
Et la mia voce.
Et maintenant, c'est ma voix.
Quindi, grazie Olivier pour tout le supporto.
Grazie a te.
Gianfranco Rosi, sélectionné pour aller représenter l'Italie aux États-Unis à l'occasion de l'Oscar du meilleur film étranger en février prochain. C'est pas mal, vous qui pensez que le documentaire aujourd'hui n'intéresse plus personne, et notamment en Italie. C'est quand même le signe d'un intérêt pour votre travail et la qualité de vos films.
Non, c'est une scelta coraggiosa.
C'était un choix courageux de la part de jury. Il y a eu un combat très fort de la jury, dans le jury.
Et
donc à la fin, nous avons été choisis avec ce film documentaire.
Et
ça, c'est important parce que la division entre le documentaire et la fiction devient de plus en plus fine. Il y a une explosion d'une polémique très forte en Italie aussi, et ça fait du bien parce que le débat est est-ce que le documentaire est du cinéma? Et le documentaire du réel, et le réalisme magique, le documentaire poétique, il y a plein de choses qui se sont déchaînées en fait, une infinité de définitions. Et j'ai toujours dit, c'est pour moi ça a toujours été un parcours depuis mon premier film, d'essayer d'effacer cette différence, pas en faisant un genre unique, parce que je dis toujours que mon film est un documentaire, parce qu'elle est tirée de la réalité. Il parle de la réalité, mais c'est, pour moi c'est important d'utiliser le langage du cinéma pour souligner la réalité et la rendre encore plus forte. Donc le mot-clé pour moi entre documentaire et fiction, c'est le mot cinéma. Et pour moi ça c'est la force. Quand je commence un film, je me demande si je suis en train de faire un documentaire ou une fiction. Je veux créer un langage cinématographique. Et la différence entre, pour moi, et pas entre la fiction et le documentaire, mais entre le vrai, c'est vrai ou c'est faux. Et ça, c'est valable pour tout le monde de l'art, pour un livre, pour une photographie, pour un tableau, pour une poésie. Tout ça, pour moi, est la force des choses. C'est faux ou c'est vrai?
Et Gianfranco Rosi, vous dites que il n'y avait pas d'intention politique au départ avec ce film, mais quand même sur une matière aussi brûlante, c'est un peu plus qu'un choix cinématographique. En tout cas, le temps en a fait un film politique. Vous, vous parlez plutôt d'un film témoignage, et ce témoignage va donc, il a commencé, hein, continuer à circuler un peu partout dans le monde et trouver à travers peut-être cette cérémonie des Oscars encore un nouvel écho qui a déjà été bien entamé à Berlin où vous avez reçu l'Ours d'Or. Et justement, en recevant l'Ours d'Or du meilleur film à Berlin en février dernier, Gianfranco Rosi, vous avez eu ces mots forts et simples dans le sens d'une évidence. Il n'est pas normal que des gens meurent en traversant la mer pour échapper à des tragédies. C'est pour eux que vous avez fait ce film, Gianfranco Rosi? Ou c'est pour nous d'abord?
Ce film a un parcours très long. Quand j'ai commencé à tourner, Lampedusa était encore à la marge de l'attention médiatique. Les choses étaient en train de changer, mais ce n'était pas aussi présent. À un moment donné, des millions de personnes ont découvert une nouvelle voie pour arriver en Europe, qui n'était plus seulement Lampedusa, mais qui était les Balkans. Et à ce point, à ce moment, l'Europe a compris, avec retard, très tard, qu'il y avait une masse de personnes qui s'étaient en train de se déplacer dans le monde. L'Europe a réagi de la pire des manières, en montant des barrières, en faisant des accords avec des pays de dictateurs comme la Turquie, comme Erdogan. Et donc le film est devenu politique. Mon film était politique du départ. Fuoco a mare est un titre politique du film. Chaque cadrage est un choix politique dans le cinéma. Mais en dehors du film, quand j'ai fini le film et que je l'ai donné au Festival de Berlin, la politique est devenue plus forte encore. Et en dehors du tournage, la politique pousse. Et le film a l'espace pour assumer la politique.
Parce
qu'il n'y a pas une thèse idéologique dans le film. Donc la politique s'imprègne du film. Le film s'imprègne de politique. Mais il y a une liberté à l'intérieur du film qui est pour moi ce qui est en train de se passer. Si ce film était sorti il y a 3 ans, il aurait été simplement un film sur l'île, sur un enfant, le regard d'un enfant, à travers ce regard des passages de migrants, des personnes désespérées qui cherchent la liberté. C'est très simple l'histoire du film, mais ça devient complexe parce que ce qui est complexe, c'est ce qu'il y a tout autour.
Et puis il y a de la colère quand même dans ce film. Le médecin de Lampedusa que vous avez rencontré en témoigne, il soigne à la fois les habitants et supervise aussi les soins médicaux d'urgence pour les migrants et les réfugiés. Devant votre caméra, mais sans jamais la regarder, il vous raconte l'horreur rencontrée, les gestes du médecin qui parfois sauve, qui sont parfois aussi des gestes qu'il doit pratiquer sur des corps morts. Son entourage pense qu'il en a tellement vu qu'il a dû s'y habituer, mais non.
Quindi dopo la morte anche quest'altra oltraggio, però serve e quindi lo faccio. Tutto questo ti lascia tanta rabbia, ti lascia un vuoto nello stomaco, un buco, ti fa pensare, ti fa sognare. Per me sono degli incubi che rivivo spesso.
Après la mort, ce nouvel outrage, hein, raconte-t-il dans l'extrait qu'on vient d'entendre, tout ça te laisse avec une colère, un vide dans l'estomac. Je pense à eux, je rêve d'eux, je fais des cauchemars où je revis souvent ce qui s'est passé, souvent. Voilà. Il termine 2 fois avec ces mots-là, Gianfranco Rosi. Est-ce que ce qui se passe au large de Lampedusa, vous met en colère ?
Une rabbia,
une colère consciente. Je veux que ce film soit le rachat de cette conscience.
Et je veux
pas être arrêté d'être un spectateur marginal.
Je voudrais
que du film s'ouvre une question.
Et cosa posso fare io per cambiare?
Qu'est-ce que je peux faire moi pour changer?
Il medico ci dà una risposta a
questo. Et le médecin nous donne une réponse à cette question.
Il medico nel film,
le médecin dans le film, c'est la voix de la conscience. Alors que l'enfant, c'est la voix du subconscient, de l'état d'âme intérieur, qui nous amène avec sa fragilité, avec son incapacité à affronter le futur. Il a ses peurs par rapport à quelque chose qu'il ne connaît pas. Et l'état d'âme du spectateur, qui ne sait pas comment réagir face à quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui ne sait pas encore lire, qui ne sait pas comprendre, qui ne sait pas interpréter. Donc ces deux voix dans le film, la conscience et le subconscient, nous portent à rencontrer la tragédie, à rencontrer la maladie, la mort. Et accepter cette mort comme une défaite d'une politique, qui est en train de faire l'Europe, qui est en train de faire le monde, et que ne fait pas l'Europe et qui ne fait pas le monde. Parce que quand on parle de 25 000 personnes mortes dans les 15 dernières années, c'est une folie.
Non, matanza est un slaughter.
Oui, c'est une rupture.
Non, comme quand on boy.
Ah oui, c'est ça. C'est un coup de massue, pardon.
Gianfranco Rosi, c'est un sujet pour les JT, hein, cette question des migrants, des naufrages. On voit beaucoup nos médias traiter de cette question-là, à chaque drame notamment. Et pourtant, c'est presque une autre histoire que l'on voit à l'écran dans votre film « Fuoco a mare ». Autre image, autre rythme, autre distance avec les faits. Le cinéma permet un traitement différent des médias. Hein, et vous le racontez, vous voulez que le public puisse interpréter les images plutôt que de les regarder, ressentir plutôt que de subir, voire même réfléchir. Votre but n'est pas d'informer, mais de susciter. C'est comme le poème et l'essai, dites-vous. Les 20 mots d'un poème avec les blancs, les silences et les marges d'interprétation qu'ils contiennent peuvent en dire beaucoup plus que les 20 000 mots d'un essai. Un poème, ou plutôt une prière laïque pour les migrants morts en Méditerranée, celle de l'écrivain Henri De Luca, c'était en 2015 à la télé italienne.
Mare nostro.
Notre mère qui n'est pas aux cieux, toi qui embrasses les confins de l'île et du monde, que ton sel soit béni et que tes fonds soient bénis. Tu accueilles les embarcations bondées, sans aucune route au-dessus de tes vagues. Pêcheurs sortis dans la nuit, leurs filets entre tes créatures, qui reviennent au matin avec la pêche des naufragés et sauvés. Notre mère qui n'est pas aux cieux, à l'aube tu es couleur de froment, au coucher du soleil couleur de raisin vendangé, toi que nous avons semé de noyer, plus que n'importe quel temps de tempête. Notre mère qui n'est pas aux cieux, tu es plus juste que la terre ferme, même quand tu soulèves des vagues en forme de muraille et que tu les abaisses en tapis. Protège les vies. Protège les vies, les vies tombées comme des feuilles dans une allée. Sois pour elles un automne, une caresse, une étreinte, un baiser sur le front. Sois leur père et leur mère avant le départ.
Mare Nostrum, cette prière d'Éric de Luca raconte aussi à sa manière un double rapport à la mer M-E-R, à la fois horizon infini, mer nourricière et puis aussi tombeau, gouffre sombre hein, pour ceux qui s'y noient, comme vous le faites d'ailleurs, Gianfranco Rosi, en confrontant les témoignages des pêcheurs à ceux des migrants. C'est comme ça que vous avez réussi à opérer cette distance, à tenter de changer nos regards, en mettant en parallèle cette situation entre le quotidien des habitants et ceux des migrants, sans jamais que ça ne se croise.
Dans le film, il y a deux mondes qui sortent parallèles.
Deux mondes qui ne s'incrochent jamais.
Deux mondes qui ne se croisent jamais.
Si sfiorano,
ils s'effleurent.
Si annusano,
ils se respirent, mais il n'y a jamais une interaction entre ces deux mondes. Ça a été très difficile de raconter le monde des migrants pour moi. Parce que depuis 4 ans, depuis que la frontière de Lampedusa a été déplacée au milieu de la mer, militarisée, les bateaux qui arrivent sont interceptés au milieu de la mer et personne n'arrive plus directement à Lampedusa comme dans les années passées. Donc il y a une institutionnalisation de ces débarquements. Les migrants arrivent, ils sont amenés dans les centres d'accueil en autobus. Ils sont photographiés, identifiés. Et après deux jours, ils vont en Italie dans les centres d'accueil permanents. Ou alors commence un autre drame. L'attente d'être reconnu comme réfugié politique, au moins. Et c'est un autre film. Mais pour moi, quand j'ai réussi à vivre avec les habitants de Lampedusa pendant un an et demi, leur quotidien, j'ai vu leur intimité. Mais avec les migrants, c'était toujours cette masse qui passait. C'était difficile d'avoir un contact humain. Et quelquefois, je suis arrivé à filmer les yeux à des moments d'absence, de panique, de joie, de pleurs. Mais il y a une scène dans le film pour moi qui, comme je disais, comme on disait avant, la différence qu'il y a entre un poème et un essai, un récit écrit, il y a le chant des Nigérians qui en 3 minutes raconte une odyssée. C'est un peu comme des témoignages de l'histoire, la tragédie d'un voyage. On parle du voyage dans le désert, on parle de la guerre en Libye. On parle des camps de concentration en Libye, comme où les hommes sont détenus comme des bêtes, des animaux, les femmes sont violées, les enfants, on en enlève les organes. Il y a vraiment un cauchemar, c'est vraiment un cauchemar là-bas, c'est un enfer. Et la nécessité de ces personnes d'affronter le voyage en défiant la mort et d'arriver à toucher le Lampedusa comme le dernier moment de la liberté. Et cette chanson en 3 minutes, il y a tout cela. Il y a la synthèse merveilleuse de la poésie. Il y a l'espace de l'interprétation de la poésie. Et ces 3 minutes valent 1000 interviews pour moi.
Alors, on écoute.
This is my testimony. We could no longer stay in Nigeria. Many were dying. Mosques were bombed. Churches were bombed. And we flee from Nigeria. We ran to the desert. We were in Sahara Desert and many died. In Sahara Desert and many were dying. Rebels were killing many people and we could not stay.
We flee to Libya. And Libya was a city of crisis. And Libya was a place not to stay. We cried on our knees. What shall we do? The mountains could not hide us. The people could not hide us. And we run to the sea.
Extrait de ce slam que vous évoquiez, de cette chanson des migrants, Gianfranco Rosi. Dans le quotidien du petit garçon que vous suivez, il y a effectivement celui de sa famille, le chant des oiseaux, des jeux de fronde, la mer, son mal de mer, mais il n'y a pas de migrants. Il y a une quiétude qui contraste beaucoup avec le danger traversé, la peur vécue par ceux qui viennent d'ailleurs pour arriver jusqu'ici. Vous l'évoquiez, ce témoignage, le Nigérian qui chante, qui raconte, dit « c'est mon témoignage, on ne pouvait plus rester au Nigeria ». Beaucoup mouraient dans les bombardements et il raconte la traversée, les périls, les dangers. C'est aussi pour ça que vous avez choisi de filmer de près les visages, comme des paysages, presque comme une route traversée, tout le chemin que ces hommes et ces femmes et ces enfants ont pu faire, pour qu'on puisse lire dans leurs yeux ce qu'ils ont pu vivre et traverser, Gianfranco Rosi.
Nous sommes habitués aux nombres. Maintenant, désormais, nous entendons tous les jours des nouvelles. On parle de 200, 300, 500 morts. Les nombres sont que des nombres. Et dans ce moment, je prétends que derrière chaque nombre, il y a une personne, il y a un regard. Il y a un regard qu'on peut attraper. Il y a un espoir, il y a la peur, le désespoir, toujours. Je voudrais qu'il y ait ces regards, les rencontrer. Même si c'est la première fois où voyons un regard très fort, ce voyage dans un canot pneumatique, où il y a ce groupe avait à peine été sauvé. Il y a la peur de la mort. L'incrédulité d'être encore vivant, mais à ce moment-là, c'est important qu'il y ait le premier plan qu'il y a dans le film offre un regard, une rencontre, mais il y a aussi la division d'une vitre entre moi qui filme, le public qui regarde, et le monde, c'est comme si c'était un aquarium. Et là, je voudrais souligner la séparation qu'il y a, la difficulté de rencontrer et de faire en sorte que le regard se change en parole. Parce que dans le film, c'est toujours une métaphore de nos impossibilités, une observation de la réalité, mais aussi un état d'âme intérieur. Donc, c'est un conflit constant entre un désir de vouloir toucher quelque chose et la difficulté de toucher, de raconter et de comprendre.
Et alors c'est vous qui tenez la caméra, Gianfranco Rosi, c'est-à-dire que tous ces regards, vous les avez croisés dans l'œil de votre caméra. Vous le dites, il n'y a pas que de l'espoir dans votre film, il n'y a pas que des vies sauvées, que de braves gardes-côtes italiens qui parviennent à sortir ces hommes de la mer. Il y a aussi l'échec et il y a aussi la mort que vous n'avez pas choisi de cacher, d'édulcorer. Les chiffres, on les connaît, environ 15 000 morts de personnes qui ont tenté cette traversée. Filmer cette réalité, vous l'avez fait en autorisant votre caméra à se rendre dans la cale d'un bateau où des corps s'entassent. Pourquoi avoir choisi de montrer ces images et comment vous avez procédé pour essayer de nous préparer le spectateur à cette séquence qui est assez dure?
Dans cette année et demie que j'ai passée à Lampedusa, j'ai vu beaucoup de fois la mort. J'ai vu des corps qui arrivaient sur le môle à Lampedusa la nuit, des corps brûlés, des enfants dans ces sacs noirs. J'ai vu le médecin qui touchait ces corps, qui les portait dans le... Il faisait des inspections cadavériques. J'avais décidé de ne pas la filmer, la mort. Je voulais que le rythme du film soit dicté par la vie, le quotidien. Et je ne suis jamais arrivé à la filmer, la mort. Puis j'ai passé 40 jours sur le navire militaire, où nous étions
à la frontière,
à quelques milles de la Libye. Et dans ces jours, on a secouru beaucoup de barques, beaucoup de navires. 8 ou 9 embarcations avec plus de 1000 personnes dans quelques jours. Et un matin, ce qui semblait un secours rituel, comme il y en avait eu plein d'autres, moi je pars sur ce canot pneumatique d'assistance et à un moment donné, d'une embarcation pleine d'hommes, de femmes, d'enfants, arrivent à mes pieds des corps agonisants. J'ai rencontré la mort à la frontière de l'Europe. Et là, j'ai eu tout de suite une incapacité à... Qu'est-ce que je fais? Je filme, je filme pas. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que c'était une réalité qui devait être racontée au monde. Quand, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait dans la cale des morts. Après, je suis tourné sur le bateau militaire. J'ai parlé avec j'ai filmé l'attente des femmes, la désespération, les secours. Toujours avec une grande difficulté parce que mettre la caméra à ce moment-là d'agonie, c'est vraiment difficile. J'étais très embarrassé. Mais je savais que je devais le faire. Et à un moment donné, le commandant m'a demandé si j'avais filmé les corps dessous. J'ai dit non. Mais lui m'a dit que c'était mon devoir, faire voir au monde cette image-là. Parce que c'était comme être devant une chambre à gaz et dire que l'image était trop forte. Et que je se tourner de l'autre côté. Les gens doivent savoir cette tragédie, doivent connaître cette tragédie.
Sur place, vous avez découvert aussi une musique qui a donné au film son titre, Fuoco Amare.
Dedica da fare la mamma Maria per il figlio Nello, con un messaggio, sperando che il tempo migliore si possa uscire in barca per lavorare, dedica Fuoco a mare, alla dedica mi associo anche io e la dedico a tutti i pescatori che sono in ascolto. Quindi dedichiamo a richiesta Fuoco a mare.
De Lampedusa, Fuoco Amare, lancé à l'instant par le DJ de la radio de Lampedusa, Gianfranco Rosi. Sur cette scène que vous venez de décrire, comment vous l'avez du coup intégrée au film par votre montage ?
Une fois que j'ai décidé de mettre cette scène dans le film, c'est une scène de 30 secondes dans le film. Tout le film a été monté pour arriver à ce moment-là. C'est un parcours intérieur très fort, scène après scène, comme une construction, comme une symphonie. Toutes les scènes devaient porter à cette scène. À travers tous les personnages, les situations des migrants, ça devait être un sentier qui portait à cette scène. Et pas seulement arriver à cette scène, mais aussi à pouvoir en sortir, pour donner dignité à tous les personnages. Et les dernières 28 minutes du film, c'est en silence, c'est presque un deuil.
Gianfranco Rosi, il ne reste moins d'une minute. L'histoire des migrants vous est pas étrangère. Vous êtes né en Érythrée, une ancienne colonie italienne en pleine guerre d'indépendance après son annexion par l'Éthiopie. À 20 ans, vous partez vivre à New York. Vous avez la double nationalité italienne et américaine. Et pourtant, vous vous dites parfois apatride, sans attache, sans destination peut-être. Vous avez cherché avec ce film à changer notre regard sur l'autre. Est-ce que votre regard à vous, sur cette île, sur ses habitants, sur les migrants, a beaucoup changé durant l'année de repérage que vous avez passé là-bas et durant tout le tournage ? Et ce sera le mot de la fin.
La risposta? In ogni film cambia.
Dans chaque film change mon interaction avec les choses. Chaque film change profondément. J'espère de pouvoir ouvrir des points de questions pour le public. Mon regard sur Lampedusa a beaucoup changé. Comme j'ai dit souvent, l'important, c'est que quelqu'un sorte du film, de la salle, en se posant une question. Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour changer tout cela? Si 10 personnes le font par jour, le résultat sera merveilleux.
Merci beaucoup. La maire de Lampedusa, Giosi Nicolini, disait encore très récemment que les migrants peuvent peut-être nous aider à changer les choses. Espérons que Lampedusa sera entendue, parce que Lampedusa a des choses à nous dire à travers votre film, Gianfranco Rosi. Cette petite île a beaucoup à dire à l'Europe. Merci. Le film est en salle à partir d'aujourd'hui.